Chapitre 10. Question. J'attendais cela. Ça correspond davantage à ce que, selon moi, tu promettais quand tu m'as dit que le tome 2 traiterait de questions planétaires à l'échelle mondiale. Alors, pouvons-nous commencer à examiner la politique humaine par une question qui peut te paraître élémentaire ? Réponse. Aucune question n'est indigne ou inutile. Les questions sont comme les gens. Question. Ah, elle est bonne, d'accord. Alors, permets-moi de te demander, est-il mal d'entreprendre une politique étrangère fondée sur les intérêts acquis de son pays ? Réponse. Non. D'abord, de mon point de vue, rien n'est mal. Mais je comprends comment tu utilises le terme. Je parlerai donc dans le contexte de ton vocabulaire. J'utiliserai le terme « mal », entre guillemets, pour signifier ce qui ne vous sert pas compte tenu de ce qui et de ce que vous choisissez d'être. C'est ainsi que j'ai toujours utilisé les termes « bien » et « mal » avec toi. C'est toujours dans ce contexte, car, en vérité, il n'y a ni bien ni mal. Alors, dans ce contexte, non, il n'est pas mauvais de fonder des décisions politiques étrangères sur des considérations d'intérêt acquis. Ce qui est mauvais, c'est de faire semblant de ne pas le faire. C'est ce que font la plupart des pays, bien sûr. Ils posent des gestes, ou évitent de poser des gestes, pour un ensemble de raisons, puis les justifient avec un autre ensemble de raisons. Question. Pourquoi ? Pourquoi les pays font-ils cela ? Réponse. Parce que les gouvernements savent que, si les gens comprenaient les véritables raisons de la plupart des décisions de politique étrangère, ils ne les appuieraient pas. Cela s'applique aux gouvernements du monde entier. Il y a très peu de gouvernements qui ne trompent pas délibérément les citoyens. La tromperie fait partie du gouvernement, car peu de gens choisiraient d'être gouvernés comme ils le sont, peu choisiraient d'être même gouvernés, si leur gouvernement ne les convainquait pas qu'il prend ses décisions dans leur intérêt. Il lui est difficile d'être convaincant, car la plupart des gens voient tout simplement la stupidité de leur gouvernement. Alors, le gouvernement doit mentir pour au moins essayer de retenir la loyauté des gens. Le gouvernement illustre parfaitement l'axiome « Si vous dites un mensonge suffisamment gros, suffisamment longtemps, ce mensonge deviendra la vérité. » Les gens au pouvoir ne doivent jamais laisser savoir au public comment ils sont arrivés au pouvoir, ni tout ce qu'ils ont fait et veulent faire pour y rester. La vérité et la politique ne font pas bon ménage. Elles ne peuvent faire bon ménage parce que la politique est l'art de ne dire que ce qu'il faut dire, et de le dire exactement de la bonne manière afin d'atteindre le but souhaité. La politique n'est pas entièrement mauvaise, mais l'art de la politique est un art pratique. Il reconnaît avec une grande candeur la psychologie de la plupart des gens. Il remarque tout simplement que la plupart des gens agissent selon leur intérêt personnel. La politique est la façon dont les gens de pouvoir cherchent à vous convaincre que leur intérêt personnel est le vôtre. Les gouvernements comprennent l'intérêt personnel. C'est pourquoi les gouvernements ont développé l'art de concevoir des programmes qui donnent des choses aux gens. À l'origine, les gouvernements avaient des fonctions très limitées. Leur but n'était que de conserver et de protéger. Puis quelqu'un a ajouté « pourvoir ». Lorsque les gouvernements ont commencé à être les pourvoyeurs du peuple, en plus d'être ses protecteurs, les gouvernements ont commencé à créer la société, plutôt que de la conserver. Question. Mais est-ce que les gouvernements ne font pas tout simplement ce que les gens veulent ? Est-ce que les gouvernements n'accordent pas, tout simplement, le mécanisme à travers lequel les gens subviennent à leurs propres besoins à l'échelle de la société ? Par exemple, en Amérique, nous accordons une valeur très élevée à la dignité de la vie humaine, à la liberté humaine, à l'importance de l'occasion à saisir, au caractère sacré des enfants. Nous avons fait des lois et demandé au gouvernement de créer des programmes afin de fournir des revenus aux gens âgés, afin qu'ils puissent garder leur dignité après leurs années actives, d'assurer l'égalité d'emploi et de logement à tous, même à ceux qui sont différents de nous, ou qui ont un mode de vie qui ne nous convient pas, de garantir que les enfants d'un pays n'en deviennent pas les esclaves, et qu'aucune famille ayant des enfants ne soit dépourvue des biens fondamentaux tels que la nourriture, les vêtements, le logement. Réponse. Ces lois reflètent bien votre société. Cependant, en vous occupant des besoins des gens, vous devez faire attention à ne pas les dépouiller de leur plus grande dignité. l'exercice du pouvoir personnel, de la créativité individuelle et l'ingéniosité entêtée qui permet aux gens de remarquer qu'ils peuvent subvenir à leurs propres besoins. C'est un délicat équilibre à atteindre. Vous semblez toujours aller d'un extrême à un autre. Ou bien vous voulez que le gouvernement fasse tout pour les gens, ou bien vous voulez abolir tous les programmes gouvernementaux et effacer du jour au lendemain toutes les lois gouvernementales. Question. Oui, et le problème, c'est qu'il y a tant de gens qui ne peuvent subvenir à leurs propres besoins dans une société qui donne régulièrement les meilleures occasions de vie à ceux qui détiennent les bonnes lettres de créance, ou peut-être qui ne détiennent pas les mauvaises, qui ne peuvent subvenir à leurs propres besoins dans un pays où les propriétaires refusent de louer aux grosses familles, où les compagnies ne font pas la promotion des femmes, où la justice est trop souvent un produit du statut, où l'accès à la médecine préventive est limité à ceux dont le revenu est suffisant, et où bien d'autres formes de discrimination et d'inégalité existent à une échelle massive. Réponse. Alors, les gouvernements doivent remplacer la conscience des gens ? Question. Non. Les gouvernements sont l'expression de la conscience des gens. C'est par l'intermédiaire des gouvernements que les gens cherchent, espèrent et décident de corriger les maux de la société. Réponse. C'est bien dit. Cependant, je le répète, vous devez prendre garde de ne pas vous étouffer dans des lois qui tentent de garantir aux gens une chance de respirer. Vous ne pouvez légiférer sur la moralité. Vous ne pouvez rendre obligatoire l'égalité. Ce qu'il faut, c'est un changement de la conscience collective et non une obligation imposée à celle-ci. Le comportement, et toutes les lois et tous les programmes gouvernementaux, doit provenir de l'être, doit être un véritable reflet de qui vous êtes. Question. Les lois de notre société reflètent vraiment qui nous sommes. Elles disent à chacun « Voici comment ça se passe en Amérique. Voici ce que sont les Américains. » Réponse. Dans le meilleur des cas, peut-être. Mais le plus souvent, vos lois annoncent ce que ceux qui sont au pouvoir pensent que vous devriez être, mais n'êtes pas. Question. Au moyen des lois, les quelques « élitistes » entre guillemets, instruisent les nombreux « ignorants » entre guillemets. Réponse. Précisément. Question. Qu'y a-t-il de mal à ça ? Si parmi nous, quelques-uns des individus les plus brillants et les meilleurs veulent se pencher sur les problèmes de la société en général et proposer des solutions, est-ce que cela ne sert pas le plus grand nombre ? Réponse. Cela dépend des motifs de ces quelques individus et de leur clarté. Rien ne sert davantage les « nombreux » entre guillemets, que de les laisser se gouverner eux-mêmes. Question. L'anarchie, ça n'a jamais fonctionné ? Réponse. Tu ne peux croître et grandir lorsque le gouvernement te dit constamment quoi faire. Question. On pourrait prétendre que le gouvernement, par cela, j'entends la loi selon laquelle nous avons choisi de nous gouverner, est un reflet de la grandeur, ou du manque de grandeur, de la société. Ainsi, les grandes sociétés adoptent de grandes lois. Réponse. Et en adoptent très peu, car dans les grandes sociétés, très peu de lois sont nécessaires. Question. Cependant, les seules vraies sociétés sans loi sont les sociétés primitives, où la loi du plus fort est toujours la meilleure. Les lois sont la tentative pour l'homme de niveler le terrain de jeu, assurer que ce qui est vraiment bien prévaudra, peu importe la faiblesse ou la force. Sans code de conduite soutenu par l'entente mutuelle, comment pourrions-nous coexister ? Réponse. Je ne propose pas un monde sans code de conduite ni accord. Je suggère que vos accords et vos codes soient fondés sur une compréhension plus élevée et une définition plus grandiose de l'intérêt personnel. Ce que la plupart des lois disent vraiment, c'est ce que les plus puissants d'entre vous ont comme intérêt acquis. Prenez seulement un exemple, le tabac. À présent, la loi dit qu'on ne peut faire pousser et utiliser une plante, le chanvre, parce que, vous dites gouvernement, il n'est pas bon pour vous. Mais le même gouvernement dit qu'il est tout à fait correct de faire pousser et d'utiliser une autre plante, le tabac, non pas parce qu'il est bon pour vous, en effet, le gouvernement lui-même dit qu'il est mauvais, mais présumément parce que vous l'avez toujours fait. La vraie raison pour laquelle la première plante est illégale, mais pas la seconde, n'a rien à voir avec la santé, elle concerne l'économie, c'est-à-dire le pouvoir. Par conséquent, Vos lois ne reflètent pas ce que votre société pense d'elle-même et souhaite être. Vos lois reflètent le lieu du pouvoir. Question. Ce n'est pas juste. Tu as choisi une situation dans laquelle les contradictions sont apparentes. La plupart des situations ne sont pas comme cela. Réponse. Au contraire, la plupart le sont. Question. Alors, quelle est la solution? Réponse. C'est d'avoir le moins possible de lois, car ce sont véritablement des limites. La raison pour laquelle la première plante est illégale concerne en apparence la santé. La vérité, c'est que la première herbe ne rend pas plus dépendant et ne présente pas un plus grand risque pour la santé que les cigarettes ou l'alcool, qui sont toutes deux protégées par la loi. Pourquoi, alors, n'est-elle pas légale? Parce que, si on la cultivait, la moitié des cultivateurs de coton, des fabricants de nylon et de rayonne et des fournisseurs de bois du monde seraient en faillite. Le chanvre se trouve être l'un des matériaux les plus utiles, les plus forts, les plus solides, les plus durables de votre planète. On ne peut produire de meilleures fibres pour les vêtements, de substances plus fortes pour les câbles, de sources de pulpe plus faciles à cultiver et à récolter. Vous abattez des centaines de milliers d'arbres par année pour recevoir le journal du dimanche, pour pouvoir lire des articles sur la décimation des forêts du monde. Le chanvre pourrait vous fournir des millions de journaux du dimanche sans qu'on abatte un seul arbre. En effet, il pourrait se substituer à un grand nombre de matériaux de ressources, au dixième du coût. Et voilà la trappe. Quelqu'un perd de l'argent si la culture de cette plante miraculeuse, qui a d'extraordinaires propriétés médicinales, devient légale. Et voilà pourquoi la marijuana est illégale dans votre pays. Depuis des années, vous avez les moyens et la technologie nécessaires pour produire toutes ces choses. Pourquoi alors ne les avez-vous pas? Cherche à voir qui perdrait de l'argent si vous les aviez. C'est là que tu trouveras ta réponse. Est-ce la grande société dont vous êtes si fier? Votre grande société, entre guillemets, il faut la traîner de force, gigotante et hurlante, pour qu'elle considère le bien commun. Chaque fois qu'on mentionne le bien commun ou le bien collectif, chacun crie au communisme. Dans votre société, si le fait de subvenir aux besoins du plus grand nombre ne produit pas un profit immense pour quelques-uns, le bien du plus grand nombre est plus souvent qu'autrement ignoré. C'est vrai non seulement dans ton pays, mais également dans le monde entier. Par conséquent, la question fondamentale qu'affronte l'humanité, c'est « Pourra-t-on jamais remplacer l'intérêt personnel par les meilleurs intérêts, l'intérêt commun de l'humanité ?» Si oui, comment ? Aux États-Unis, vous avez essayé de subvenir à l'intérêt commun, au meilleur des intérêts, par des lois. Vous avez lamentablement échoué. Votre pays est le plus riche et le plus puissant de la Terre, et il a l'un des taux de mortalité infantile les plus élevés. Pourquoi ? Parce que les gens pauvres ne peuvent se permettre des soins prénatals et postnatals de qualité, et que votre société est orientée sur le profit. Je cite cela comme un exemple de votre lamentable échec. Le fait que vos bébés meurent à un taux plus élevé que dans la plupart des autres pays industrialisés devrait vous déranger. Ce n'est pas le cas. Cela en dit long sur vos priorités en tant que société. D'autres pays subviennent aux besoins des malades et des nécessiteux, des gens âgés et des infirmes. Vous, vous subvenez aux besoins des riches et des gens à l'aise, influents et bien placés. 85% des Américains retraités vivent dans la pauvreté. Un grand nombre de ces Américains âgés, et la plupart des gens à faible revenu, utilisent la salle d'urgence de l'hôpital local comme médecin de famille, ne cherchant de traitement médical que dans les circonstances les plus sinistres et ne recevant, à toute fin pratique, aucun soin de santé préventif. Il n'y a aucun profit à faire, vois-tu, avec des gens qui ont peu à dépenser, car ils ont épuisé leur utilité. C'est cela, votre grande société ? Question. Tu noircis le tableau. L'Amérique a fait davantage pour les déshérités et les infortunés, à la fois ici et à l'étranger, qu'aucun autre pays de la Terre. Réponse. L'Amérique a fait beaucoup, c'est vrai, de toute évidence. Mais sais-tu qu'en pourcentage de leur produit national brut, les États-Unis fournissent proportionnellement moins qu'un grand nombre de plus petits pays pour l'aide à l'étranger? Avant de vous permettre de trop vous féliciter vous-même, peut-être devriez-vous regarder le monde qui vous entoure. Car si c'est le mieux que votre monde peut faire pour les moins fortunés, Vous avez tous beaucoup de choses à apprendre. Vous vivez dans une société gaspilleuse, décadente. Vous avez intégré à presque tout ce que vous fabriquez ce que vos ingénieurs appellent l'obsolescence planifiée. Les autos coûtent 3 fois plus cher et durent 3 fois moins longtemps. Les vêtements tombent en pièces après qu'on les ait portés 10 fois. Vous mettez des produits chimiques dans vos aliments afin qu'ils restent plus longtemps sur les tablettes, même si cela veut dire que votre séjour sur la planète est plus court. Vous appuyez, encouragez et permettez à des équipes sportives de payer des salaires obscènes pour des efforts ridicules, tandis que des enseignants, des prêtres, des chercheurs qui luttent pour trouver un remède aux maladies qui vous tueront mendient des fonds. Vous jetez plus de nourriture chaque jour dans les supermarchés de votre pays, les restaurants et les maisons, qu'il n'en faudrait pour nourrir la moitié du monde. Mais ce n'est pas un procès, c'est tout simplement une observation. Et pas seulement des États-Unis, car les attitudes désolantes sont répandues dans le monde entier. Partout, les déshérités doivent économiser les bouts de chandelle pour seulement rester en vie, tandis que l'élite au pouvoir protège et augmente de grandes réserves d'argent, dort dans des draps de soie et ouvre chaque matin ses robinets en or. Et maintenant que des enfants émaciés, qui n'ont plus que la peau et les os, meurent dans les bras de mères en pleurs, les leaders de leur pays s'adonnent à la corruption politique qui empêche les dons alimentaires d'arriver aux masses affamées. Personne ne semble avoir le pouvoir de modifier ces conditions. Mais en vérité, le problème n'est pas le pouvoir. Personne ne semble en avoir la volonté. Et il en sera toujours ainsi, aussi longtemps que personne ne considérera l'épreuve d'un autre comme étant la sienne. Question. Eh bien, pourquoi ne le faisons-nous pas ? Comment pouvons-nous voir ces atrocités tous les jours et les laisser continuer ? Réponse. Parce que vous ne vous en souciez pas. C'est un manque de bienveillance. La planète entière affronte une crise de conscience. Vous devez décider si vous vous préoccupez ou non les uns des autres. Question. J'ai une question qui peut paraître tellement minable. Pourquoi ne pouvons-nous pas aimer les membres de notre propre famille ? Réponse. Vous aimez vraiment les membres de votre propre famille. Seulement, vous avez une vision fort limitée de qui sont les membres de votre famille. Comme vous ne vous considérez pas comme faisant partie de la famille humaine, les problèmes de la famille humaine ne sont pas les vôtres. Question. Comment les peuples de la Terre pourront-ils changer leur vision du monde ? Réponse. Tout dépend de ce pourquoi vous voulez la changer. Question. Comment pouvons-nous éliminer une plus grande part de la douleur, une plus grande part de la souffrance ? Réponse. En éliminant toutes les séparations en vous, en construisant un nouveau modèle du monde, en l'entretenant dans le cadre d'une nouvelle idée. Question. Qui est ? Réponse. Qui serait une rupture radicale par rapport à la vision actuelle du monde. Présentement, vous voyez le monde, nous parlons maintenant du point de vue géopolitique, comme une collection d'États-nations, chacun étant souverain, séparé et indépendant des autres. Les problèmes intérieurs de ces États-nations indépendants ne sont pas considérés, en général, comme les problèmes du groupe dans son ensemble, à moins et jusqu'à ce qu'ils affectent le groupe dans son ensemble, ou les membres les plus puissants de ce groupe. Le groupe, dans son ensemble, réagit aux conditions et aux problèmes des États distincts fondés sur les intérêts acquis du plus grand groupe. Si personne, dans le plus grand groupe, n'a rien à perdre, la situation dans un État distinct pourrait se dégrader et personne ne s'en soucierait beaucoup. Des milliers de gens peuvent mourir de faim chaque année. Des centaines peuvent mourir dans une guerre civile. Des despotes peuvent piller la campagne. Des dictateurs et leurs brutes armées peuvent violer, piller et tuer. Des régimes peuvent dépouiller des gens des droits humains fondamentaux. Et vous autres, vous ne ferez rien. Selon vous, c'est un problème intérieur. Mais quand vos intérêts sont menacés là-bas, quand vos investissements, votre sécurité, votre qualité de vie sont en jeu, vous ralliez votre pays et tentez de rallier votre monde derrière vous, et vous vous précipitez là où même les anges n'osent pas mettre le pied. Vous dites alors le gros mensonge, prétendant que vous faites ce que vous faites pour des raisons humanitaires, pour aider les peuples opprimés du monde, alors qu'à la vérité, vous êtes tout simplement en train de protéger vos propres intérêts. La preuve, c'est que lorsque vous n'avez pas d'intérêt, vous ne vous sentez pas concerné. La machinerie politique du monde fonctionne à partir de l'intérêt personnel. Est-ce vraiment neuf ? Il devrait y avoir du neuf si vous voulez que votre monde change. Vous devez commencer à considérer les intérêts de quelqu'un d'autre comme les vôtres. Cela n'arrivera que lorsque vous reconstruirez votre réalité mondiale et que vous vous gouvernerez en conséquence. Question : parles-tu d'un gouvernement mondial ? Réponse : exactement.